Parlons de Molière. L'auteur qui fait des pièces et qui les joue lui-même, s'il fait des chefs-d'œuvre et s'il les interprète, il devient alors et de toute évidence un auteur accompli.
Parlons une dernière fois de Molière. C'est le cinquième épisode de notre série « Comment le comédien du roi est-il devenu l'incarnation de la République ?»
J'avoue d'avoir jamais pensé à l'avenir de mes comédies. Ce sont des comédies. Elles ne prétendent pas à autre chose qu'à corriger les hommes de notre temps de leurs défauts. Y a-t-il la matière à dépasser son siècle ?
Réfléchissez que les coutumes et les vêtements des hommes changeront, mais non point leur travers, ni le fond de l'humaine nature. Vous êtes le bien-aimé de l'avenir.
Ainsi aurait parlé Boileau, mais il est peu de voix immortelles. Celle de Molière aurait-elle pu cesser de vivre et de parler ? Au fond, notre homme était-il si assuré d'une fortune posthume ? Au XVIIIe siècle, ce n'est pas lui que Voltaire retenait spontanément comme illustration première de son siècle de Louis XIV. Et on se souvient peut-être de Musset à l'époque romantique. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. La Comédie française, d'ailleurs, a fait beaucoup pour installer l'éternité de Molière, mais non sans susciter la contradiction. Jacques Copeau, en 1913, ouvrant son vieux colombier aux farces de Molière, se revendique d'une autre tradition que celle des comédiens officiels. « Il faut, dit-il, faire réentendre le grand homme de très tôt. » Des interprétations différentes de Molière, on discutera à l'infini, chacune à sa fécondité. Ce qui peut lui être fatal, c'est le théâtre d'édification. Molière, annonné en classe jusqu'à plus soif, ses personnages transformés en bourgeois, satisfaits de leur bon sens, ses pièces en produits d'exportation du Made in France. Rien n'est pire qu'un Molière qui ne fasse plus rien bouger en nous. Jouvet disait à ses élèves du conservatoire, « Si tu as le sentiment que c'est facile, que tu respires commodément, que ça passe bien, c'est que ça ne passe pas. » Un Molière sans effort de sensibilité et d'intelligence ne se conçoit pas.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
C'est bien pour cela, pour nous faire bouger la sensibilité et l'intelligence que vous nous avez accompagnés toute la semaine. Georges Forestier, qui préparait, après la publication il y a quelques années de Roger Duchesne, de la biographie de Roger Duchesne, une nouvelle biographie de Molière, qui avait édité avec Bourqui le théâtre complet à la Pléiade. Vous n'êtes pas si nombreux que ça, au fond, il y a toute une équipe autour de vous l'édition de la Pléiade, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça à travailler sur Molière.
Non, parce que Molière, comme c'est l'auteur que l'on étudie le plus à l'école et au lycée, et même à l'université, c'est celui que tout le monde croit le mieux connaître. Donc c'est celui sur lequel on estime le moins avoir à revenir. Autant la recherche en littérature française a travaillé sur réhabiliter, le mot est mauvais, mais des Rotrous, des Durier, des Tristan l'Hermite, etc. On a découvert qu'ils avaient écrit des tragédies absolument magnifiques. Il n'y avait pas que seulement les tragédies de Corneille et de Racine au XVIIe siècle. Autant Molière, c'est quelqu'un que tout le monde croit connaître, qu'on connaît un peu par cœur. Il fait partie de la société française, de la nation, de l'éducation. Et donc, quel besoin de revenir sur Molière ?
Je croyais que vous alliez me répondre autrement en disant « Ceux qui travaillent sur Molière répètent peut-être un peu toujours les mêmes choses, mais vous ne parlez pas comme ça. »
Bien sûr que non. J'essaie de répéter autrement des choses différentes.
Alors, dans l'enseignement universitaire tel que vous le pratiquez, vous proposez beaucoup de surprises. Mais revenons à l'enseignement scolaire. Il y a un théâtre d'édification scolaire au XVIIe siècle qui n'a rien à voir avec le théâtre tel que nous l'avons étudié jusqu'ici.
Dans les grands collèges d'éducation et particulièrement les collèges des jésuites et les oratoriens, la classe de rhétorique, c'est-à-dire l'équivalent de la classe de première aujourd'hui, est consacré en partie à l'apprentissage d'une pièce écrite par leur régent, c'est-à-dire par leur professeur, qu'ils vont apprendre par cœur, qu'ils vont mettre en scène, qu'ils vont jouer pour la remise des prix à la fin de l'année. Et c'est un des grands moments de l'éducation. C'est-à-dire, et évidemment, ce sont des pièces à la fois éducatives, mais aussi édifiantes, puisque c'est presque toujours l'histoire d'un martyr, d'un saint, etc.
Bon, mais ce sont des pièces qui ont le mérite de la cohérence, qui sont en situation dans un collège. Oui. En revanche, quand on veut mettre Molière, qui est toujours en état d'ébullition, dans un flacon d'édification dans les classes. Alors voici un morceau de bravoure. Truffaut, n'a pas dû beaucoup aimer et l'enseignement général qu'il a reçu et l'enseignement moliéresque, peut-être. Voilà comment il reconstitue une classe de tiers dans le Puy-de-Dôme, dans l'argent de poche.
Alors, Fougerie, toujours en retard? Des mousseaux, récite-nous là-bas.
Je n'ai pas appris, mademoiselle.
Enfin, c'est insensé, vous l'aviez bien à apprendre, non?
Oui, mademoiselle.
Bon, alors, Privadier, tu nous dis le texte.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel. Oh, je suis perdu, je suis assassiné.
On va essayer quelqu'un d'autre. Faillet, peut-être.
Au voleur, assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qui est-il?
Il faudrait mettre un petit peu plus de différence et puis parler un peu moins vite. Bon, tu t'assois. Brouillard, à toi.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné.
Bon, arrête. Tu sais bien ton texte, mais on a l'impression que tu comprends pas du tout ce que tu dis. Tu le dis toujours sur le même ton. Écoute-moi. Au voleur! Au voleur! Au meurtrier, à l'assassin! Justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Tu comprends? Alors recommence.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel.
Bon, écoute, tu es peut-être têtu, mais moi aussi, figure-toi. Alors on y passera la matinée, s'il le faut, la journée. Alors, tu vas le dire convenablement cette fois-ci. Tu recommences.
On ne va pas y passer la matinée parce que l'institutrice est appelée pour accueillir un élève étranger, encore un élève étranger, dit-elle. Il y a déjà assez d'élèves dans ma classe, on peut le penser d'ailleurs. Et dès qu'elle a le dos tourné, les gamins se mettent à réciter la tirade d'Harpagon et c'est infiniment mieux que ce qu'a proposé ou voulu imposer l'institutrice. L'institutrice encore très Troisième République, là.
C'est ce qu'on a tous fait. Le nombre de fois où on nous a imposé de lire des livres qui nous ont ennuyés et sortis du lycée, on s'est mis à les lire nous-mêmes et on les a adorés. C'est le problème de Molière, c'est que, et de Corneille et de Racine, et de La Fontaine. Combien de fois j'ai expliqué à des étudiants La Fontaine, excusez-moi de dériver un peu, mais j'ai expliqué à mes étudiants La Fontaine, et j'aurais fait découvrir que La Fontaine, c'est pas un auteur de morale, c'est un auteur galant, qui est issu des cercles galants, qui joue avec un petit genre qui est la fable, et qu'il transfigure en racontant des histoires de la façon la plus ciselée, la plus humoristique possible, et quand, lorsqu'on le montre comme ça, c'est complètement différent. Et Molière, c'est exactement pareil. Le Molière étudié à l'école, c'est le Molière qu'on a figé à partir de la fin du XVIIe siècle, et alors de plus en plus à mesure qu'on est allé en avant dans le XVIIIe siècle, comme un auteur moral, un auteur de caractère, donc qui vise à corriger les mœurs. Et on a vu hier que Molière invente cette notion-là de correction des mœurs pour défendre Tartuffe, et que c'est pas du tout son théâtre. Et du coup, on érige un certain Molière au premier rang, c'est-à-dire le Molière des grandes pièces en cinq actes, qui donne l'impression de traiter d'un caractère, et on laisse de côté le Molière des petites comédies, où ça virevolte, où il n'y a que du jeu, que du plaisir, enfin, dans les autres aussi.
Mais comment voulez-vous, passons à l'enseignement de la République, parce que ça a été l'incarnation de la République, plus que celle du XVIIIe siècle, Molière. Comment voulez-vous que dans la République, on comprenne le monde galant? Le monde galant, tel que vous l'avez décrit, c'est un monde qui se moque de ceux qui veulent y pénétrer, qui n'aiment pas l'élargissement.
Et qui est profondément aristocratique.
Et la République, c'est l'élargissement progressif.
Oui.
Donc les personnages de Molière vont devoir devenir des bourgeois.
C'est ça le problème, c'est que la Troisième République fait de Molière l'incarnation de l'esprit national. La Troisième République se construit après la défaite de 70 contre la Prusse, et donc il faut construire un esprit français face à l'Allemagne. C'est la Troisième République qui invente le Molière héritier de l'esprit gaulois du Moyen-Âge, qui invente une filiation entre la farce du Moyen-Âge et Molière, alors qu'il n'y a pas de filiation, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que Molière ne faisait pas des farces, entre guillemets, mais à l'époque, au XVIIe siècle, on parlait de farce pour toute petite comédie en un acte, avant les précieuses ridicules. Et donc, il y a ces deux aspects. La Troisième République redonne des couleurs à Molière par rapport à ce qui se produisait avant. Vous avez cité tout à l'heure la phrase de Musset. Ce n'était que Molière, j'étais seul l'autre soir au Théâtre français. Parce que, tout au long du XVIIIe siècle, la Comédie française a fait de Molière son patron. D'ailleurs, quand on va à la Comédie française, on voit la liste des doyens. Il y a écrit premier doyen Molière, alors qu'en fait il n'a jamais été doyen de la Comédie française puisqu'il est mort 7 ans avant la création. Mais il y a tout cet esprit-là, donc il y a une sorte de fixation, de rigidité qui s'est créée. Et donc la Troisième République a eu l'impression de le rénover en le nationalisant et en faisant le porteur de l'esprit français. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de la langue de Molière. C'est pas auparavant, c'est à partir de 1870.
On verra comment il faut la prononcer, la langue de Molière, si tant est qu'il y ait des codes adaptables à tout comédien officiel. Vous devez bien considérer Georges Forestier, qui avait quand même des contestations, des attaques des traditions officielles. Je citais dans le chapeau Copeau, 1913, la création du Vieux Colombier. Et voici maintenant, côte à côte, vous les reconnaîtrez, Funès et Charles Dullin soi-même. Alors, c'est là le retour à la farce de très tôt. Le trait est amplifié, le comique va jusqu'au grotesque. On n'est pas dans l'empesement que vous décriviez il y a un instant.
Au voleur ! Au voleur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel, je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Ou courir ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est ? Hé ! Arrête ! Rends-moi mon argent, coquin ! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre.
Ah, je n'en peux plus, je me meurs. Je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui me l'a pris ? Que dites-vous ? Ce n'est personne. Ah, il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pielleur, et l'on a choisi juste le temps que je parlais à mon traître de fils. S'entend ? Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils et à filles, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et de quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y est ? Oh, de grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché, là, parmi vous ? Oh, ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Au voleur ! Au voleur !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ben, c'était le nom de Lebrun après celui de Dullin. Quelle impudence. On n'est pas là non plus, Georges Forestier. On parle de Molière et de sa fortune posthume dans cette dernière émission de notre série de la semaine pour donner l'avantage à un tel plutôt qu'à un autre, dire qu'un tel est davantage fidèle à je ne sais quelle source difficile à identifier. C'est quand même extraordinaire, Dullin, là.
Oui, tout à fait. Mais il se trouve que, d'abord, on est au XXe siècle. On est déjà arrivé dans un siècle où on s'est dit Molière, c'est pas seulement justement un auteur moral. C'est autour du milieu du 19e siècle, quand même, ça bascule. C'est au milieu du 19e siècle qu'on a découvert que Don Juan, c'était une pièce en prose de Molière qu'on pouvait monter, alors que jusqu'alors, depuis 1677 jusqu'en 1849, on a monté à la Comédie française une pièce qui s'appelait Le Festin de Pierre, de Molière, qui est la version versifiée par Thomas Corneille. C'est-à-dire que Tout d'un coup, on découvre qu'il y a un Molière, qui est un Molière en prose, comme dans l'Avare, qu'un Molière qui bouge, un Molière qui saute, et on commence à rentrer dans l'idée que on peut jouer Molière de cette manière-là. Et c'est la raison pour laquelle des grands acteurs du XXe siècle vont pouvoir s'incarner en quelque sorte dans ce type de jeu. Et en même temps, découvrir que ce qui était justement réservé à l'Avare, parce qu'on voit bien dans l'Avare, dans ce monologue, qu'il y a une sorte de déréalisation, puisque le personnage s'adresse au spectateur, du parterre, devant, puis là-haut, etc. Donc, il y a une sorte de réalisation et que Molière ne cherche pas la description du caractère. Mais c'était un peu réservé qu'à ce monologue de l'Avare. Et petit à petit, on se rend compte justement qu'il n'a pas écrit que ça. Qu'il a écrit Georges Dandin, qu'il a écrit ce qu'on appelait des farces au XVIIe siècle.
Enfin, il se passe quelque chose dans les années 20-30 avec le cartel. Je parlais du vieux Colombier qui a abrité aussi Louis Jouvet. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, un livre que on peut recommander à tous nos auditeurs, ce sont les cours de Jouvet au conservatoire en 39-40, pendant la drôle de guerre et le début de l'occupation, consigné par Charlotte Delbeau, sa fidèle assistante, qui va elle-même devenir un grand écrivain. Et il explique à Claudia, par exemple, une comédienne dont les origines juives vont briser la carrière dans les années qui vont suivre, que l'eau, ça coule pas comme ça, c'est pas une nappe égale, ça jaillit, ça rebondit. L'art de bouger sa sensibilité et son intelligence. Ce cours étonnant a été reconstitué dans une pièce de Brigitte Jacques, dans un film de Benoît Jacquot, avec dans le rôle de Jouvet, Philippe Clévenot.
Dans la scène d'Elvire, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de moyens artificiels, il n'y a pas de machinerie. C'est l'actrice elle-même qui doit donner ce caractère étonnant. Elvire est dans un état qui est si fort intérieurement, c'est si plein d'amour intérieurement, qu'elle est quasiment inconsciente de ce qu'elle dit. C'est une somnambule qui entre. Or, ta marche d'entrée est une marche consciente déjà. On sent que tu entres volontairement. Tout ce que tu dis là-dedans est conscient d'un bout à l'autre. Tu donnes l'inverse du morceau, c'est-à-dire une conscience constante, une politesse mondaine. Alors que le morceau est le contraire. Ce morceau est étonnant, stupéfiant, parce que cette femme se met tout à coup à parler sur un ton avec une éloquence, dans un style ravissant, qui jaillit d'elle inconsciemment. Tu nous donnes, toi, l'impression d'expliquer ce que tu dis, de le détailler, la marche d'entrée. C'est quelqu'un qui entre dans un état d'égarement total. C'est l'égarement de Lady Macbeth. Toi, tu sais ce que tu vas dire tout le temps. Même tes gestes sont les gestes que tu fais quand tu veux les faire. Quand tu fais un geste, ton corps suit le geste. C'est tout toi qui participes à ce geste. Alors que les gestes d'Elvire sont des gestes inconscients. Ce sont des gestes extatiques. C'est quelqu'un qui est dans un état d'extase. Il y a dans ce personnage une fixité intérieure qui lui donne un côté hagard et extatique. Alors que chez toi, il y a une inclinaison de la tête voulue. Cela se trahit continuellement dans la diction. Il n'y a pas une accentuation dans tout ce que tu dis. Ça sort rond, ça sort creux aussi, c'est un débit monotone, ce qui prouve que tu n'es pas dans l'état physique du personnage.
La pauvre Marianne de Medeiros qui interprète Claudia, l'élève de Jouvet, on l'entend guère dans cet extrait qui concerne l'acte 4 de Don Juan, la scène 6, quand tel le personnage d'un mystère médiéval, je cite Jouvet, Elvire parle à Don Juan.
C'est extraordinaire parce qu'il a très bien perçu exactement ce qui est en jeu, parce que c'est peut-être pas un personnage issu d'un mystère médiéval, mais c'est un personnage issu d'un tableau du XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est une Madeleine pénitente. Elvire apparaît hantée par ce qu'on appelait la conversion, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, elle est habitée par cette conversion. C'est une Madeleine. Molière s'est inspiré d'éléments de remords et de renonciation au monde qui est celle des Madeleines. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, tout ce qu'indique Jouvet à son actrice, c'est absolument merveilleux.
Et vous qui enseignez que Molière passe par le corps, la danse, le bouger des comédiens, vous avez dû être sensible aussi au fait que Jouvet dit « Le corps doit sentir ce que le mot représente. Il faut se gorger dans le corps des sentiments que la bouche va dire. »
Mais c'est d'autant plus facile au XVIIe siècle qu'avec le système déclamatoire, même si dans la comédie on adoucit, on assouplit la déclamation, le système déclamatoire fait qu'on exprime un texte. Et donc c'est le corps qui exprime le texte. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, par rapport au système qui a été mis au point à la fin du 19e, au 20e siècle, qui culmine dans l'actor studio, qui est un système qui triomphe au cinéma, c'est-à-dire l'effacement total de l'acteur derrière le personnage. La déclamation laisse le personnage absolument conscient de ce qu'il dit, tout en jouant avec son corps pour exprimer le mieux possible le texte. Et ça, cette manière-là, il y a une cohérence absolue dans la manière dont Molière invente son nouveau type de jeu comique et cette conception de l'expression du texte par le corps.
Moi, j'aime bien quand vous dites « vous savez, vous comprenez », on a du mal à comprendre. Alors, je vais vous proposer une illustration qui va peut-être faire saisir à nos auditeurs ce que vous voulez leur faire sentir. Nous sommes dans un film qui s'appelle « Alsace, ta bicyclette » de Philippe Leguay. Lambert Wilson, qui est tout nourri des conceptions modernes de la représentation, va rencontrer Fabrice Lucchini, un vieux de la vieille. Fabrice Lucchini, atteint de dépression, s'est réfugié à l'île de Ré. C'est pas mal pour jouer Alceste.
De même que pour la dépression.
Ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Alors, Lambert Wilson et Fabrice Lucchini s'exercent dans les rôles de Philinte et d'Alceste. Et Lambert Wilson est peut-être trop moderne pour vous comprendre et entendre Lucchini.
Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination.
Obstination,
et c'est une...
c'est pas ça du tout. Hein. Obstination, c'est pas ça du
Pourquoi
tout.
Pourquoi c'est pas ça?
Mais parce que obstination, comme tu le fais, il faut que tu appuies quand même la dernière syllabe, tu comprends? Parce que je te dis pas de la surappuyer, mais il faut que tu l'appuies parce que sinon il va t'en manquer une. Alors c'est obstination... perfection.
Mais c'est complètement archaïque comme diction.
Non, mais ce sont des alexandrins, Gauthier. Un alexandrin, ça a 12 syllabes. Il faut fléchir autant sous obstination, comme tu l'as dit. Eh bien, il manque une syllabe. Il y en a 11. Pour en avoir 12, il faut dire il faut fléchir autant sans obstination.
Mais je m'en fous, moi, des syllabes. Je suis pas à l'école. Je suis pas en train de faire une matinée classique. Moi, je joue pour le public d'aujourd'hui.
Ah oui.
Les gens viennent voir le misanthrope parce que ça leur parle de maintenant. Hein, ça rime à rien de le dire à l'ancienne, là.
Molière, c'est pas un scénariste. Sans aucun mépris, il écrit pas pour des séries télé.
Parce que tu trouves que je joue comme un téléfilm, c'est ça?
Mais tout de suite, tu prends la mouche. J'ai pas dit que tu faisais téléfilm. Molière, c'est une structure musicale. C'est organique. Tu peux pas raisonner le vers. Ça passe par le corps.
Le vers et l'alexandrin passent par le corps.
Je vois très bien Lucchini dire ça, même si j'ai pas vu le film. Mais je l'entends, je le vois et je sais qu'il est habité par cette conception-là. Même si c'est pas la conception de la déclamation du XVIIe siècle, il a entièrement raison. La difficulté d'aujourd'hui de dire un texte, c'est comment dire le vers. C'est un problème que se posent les comédiens tous les jours lorsqu'ils doivent dire du Corneille, du Racine, et plus encore du Molière, puisque le Molière, c'est la comédie, donc ça doit aller un peu plus vite, donc ça paraît être plus naturel. Et donc, comment faire?
On peut faire un essai, vous savez, on consulte la Bible au hasard dans les bonnes vieilles familles protestantes. On fait ça comme ça, vous avez... un exemplaire d'un des volumes de la Pléiade.
Si vous voulez, on commence le début de l'acte 3 du Misanthrope. Hein, et je viens de
restons sur le Misanthrope, c'est
voilà.
Bien.
Voilà. Donc, si je lis à la moderne, « Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite, toute chose s'égaye et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets, de paraître joyeux ?» Au XVIIe siècle, on le disait à peu près, bien sûr, parce qu'on n'était pas là, mais on sait parmi, grâce au traité de rhétorique, grâce au traité sur les rimes, etc., que l'on le disait, « Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite, toute chose s'égaye et rien ne t'inquiète. En bonne foi crois-tu, sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeuse ?»
On peut pas jouer comme ça, c'est complètement archaïque.
Il y a des gens qui le jouent. On a écouté l'autre jour un passage du Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Benjamin Lazare et ça passe très très bien. Et toutes les fois que j'ai vu donner ce type de déclamation devant des jeunes, des enfants, des lycéens, ça leur parle, ça leur paraît être de la BD et ils comprennent immédiatement ce qui est en jeu. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le corps souffrant, larmoyant du comédien qui s'interpose entre le texte et le personnage et eux. Et c'est ce qui se passait au XVIIe siècle. On n'avait pas l'interposition du corps censé être le corps d'un être humain quasiment réel au milieu. Ça marche très très bien au cinéma. C'est une des difficultés du théâtre du 20e et du 21e siècle. C'est comment trouver sa place quand il y a le cinéma qui joue sur ce type d'incarnation qui est nécessaire du fait du réalisme de plus en plus grand du cinéma et cet art qui est théâtral, surtout lorsque ce sont des alexandrins qui sont dits.
Alors si on prend le parti de jouer comme vous le recommandez, au fond, ça illustre cette vieille thèse qui doit être vraie. Le théâtre est une langue étrangère.
Exactement. Au XVIIe siècle, on le disait déjà. dans un livre qui s'appelle La grammaire de Racine, au début du XVIIIe siècle. C'est Dubos qui écrivait que nous avons deux langues, une langue pour la conversation et une langue pour la déclamation. La déclamation au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a la conscience que le théâtre est un art artificiel, qu'on arrive à prendre les spectateurs qui croient à ce qu'ils voient, tout en étant évidemment au théâtre, donc qui ont la conscience d'être devant une fiction, et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette conscience de la fiction. Soit on écrit en prose, et là c'est beaucoup plus facile, mais à partir du moment où on choisit de mettre en scène une pièce en vers, il faut faire entendre le vers.
Alors, il faut regarder la matérielle, il faut faire entendre le vers, mais nous sommes habitués, alors est-ce que c'est la tradition bourgeoise et républicaine, à une interprétation, puisqu'on parle du misanthrope revenant au misanthrope, biographique, Molière a été cocu, le misanthrope,
C'est faux, bien sûr. C'est une légende qui naît bien après la mort de Molière. Molière, c'était une star au XVIIe siècle. On n'imagine pas qu'il était cocu. C'est plutôt sa femme qui avait des chances de l'être. Hein. Imaginons ce que c'était. C'était la première star. C'était comme une star de cinéma aujourd'hui, Molière, au milieu du XVIIe siècle. Donc, et de toute façon, on n'a aucune trace du vivant de Molière. C'est après sa mort que des milieux hostiles au théâtre et aux comédiens, que commencent à apparaître des pamphlets qui assimilent Armande Béjart à l'une de ces comédiennes qui sont toutes des traînées, et qui donc, à partir de là, on a reconstitué la chose. Le misanthrope, c'est... Il est parti, Molière, d'une pièce qu'il avait abandonnée parce qu'elle n'a pas eu de succès, qui s'appelle Don Garcia de Navarre, qu'il avait écrit dans la fin des années 50, au moment où il arrivait à Paris.
Comédie sérieuse.
Comédie sérieuse. Et dont le thème est la jalousie. Don Garcia, c'est un type qui est constamment jaloux, qui surprend constamment la princesse qu'il veut épouser et qu'il soupçonne de... Molière, à ce moment-là, il était à 4 ans d'épouser Armande. Il était avec la fille de Dufresne à ce moment-là, il passait de femme en femme, on voit pas pourquoi. Il aurait... C'est parce que la question de la jalousie est au centre des discussions galantes dans les salons, parce qu'on fait des mariages désassortis, qu'on se demande comment se comporter dans le mariage lorsqu'on épouse un homme qu'on n'aime pas ou lorsqu'on épouse une femme qu'on n'aime pas, et que l'amour n'est en dehors, comment traiter la question? La jalousie, le cocuage, c'est une discussion de salon dont Molière fait une pièce de théâtre.
Mais oui, mais moi je me fais l'interprète de la tradition... Vous savez, Lagarde Michard et Castex
oui.
sur Air.
Oui, j'ai étudié ça aussi quand j'étais petit.
Il y avait l'intrigue du misanthrope, et puis en dessous, il y avait une bande, une flèche
mais
qui
oui.
racontait la vie de Molière. Et donc, l'interprétation se faisait en fonction de la vie de Molière.
Voilà, mais c'est ça qu'on fait à l'université. C'est-à-dire, on essaie de rechercher qu'est-ce qui a été apporté par la légende postérieure et qu'est-ce que disent les textes contemporains. Les textes contemporains nous disent Molière, star, Molière... adulé par les femmes, Molière écrivant des pièces sur la jalousie avant même, très longtemps avant son mariage, parce que c'était le thème à la mode.
J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place sans des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez ! Oh, excuse-moi, pardonne-moi, ne fais pas le hurler, le aller. Allez ! Vous devriez me... Attends,
Robin. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez ! Non, c'est pas possible.
Quoi?
Mais c'est épouvantable.
Mais non, c'est bien...
C'est pas possible. Putain, mais c'est infernal. Ton truc, c'est infernal. Je coupe mon portable, moi, quand je répète. Alors tu fais pareil.
Non, mais t'as pas à couper ton portable, t'as juste pas de portable.
Si, j'ai un portable. Mais personne n'a le numéro et personne m'appelle. Enfin, c'est pas possible, enfin. Ferme le portable. On répète Molière, quand même.
Oh, ouais.
Oui, mais on va vers la fin. Alceste, c'est celui qui passe au silence.
Oui. Et qui débranche son portable, effectivement. Pour aller dans son désert, c'est-à-dire dans son château, comme on disait au XVIIe siècle.
Et qui remet fondamentalement en cause la crédibilité du langage.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est qu'il y a un Alceste atrabilaire, apparent,
oui.
qui occupe les 4/5 de la pièce, et puis il y a un Alceste fondamental qui, lui, est un homme de défi.
Oui, mais si vous me permettez une dernière déconstruction de la manière dont ça s'est fait, il faut savoir qu'à l'origine, le sujet de la pièce était l'atrabilaire amoureux. Et que, comme Molière avait à faire passer l'idée qu'il corrigeait les mœurs, que désormais il s'occupait de ça, il a réintitulé sa pièce « Le misanthrope ». Et du coup, il a ajouté, juste au début et juste à la fin, des passages qui font paraître Alceste comme un misanthrope, alors qu'en fait, un misanthrope, jamais il serait tombé amoureux d'une coquette. Alors qu'un atrabilaire amoureux, un jaloux, tomber amoureux d'une coquette, c'est un paradoxe formidable. Et c'est de là qu'est parti Molière. Donc en fait, on voit bien que le misanthrope, comme ses autres pièces, c'est une marqueterie. Et c'est pour ça que c'est difficile de tirer une conclusion univoque de cette pièce.
Merci à vous, Georges Forestier. On attend avec impatience Déconstruction et Reconstruction dans votre biographie de Molière à paraître chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade avec Claude Bourqui et toute une équipe. Vous avez publié en 2 volumes le théâtre complet de Molière. L'émission a été préparée par un de vos anciens étudiants, Martin Cellier, à la réalisation Stéphane Ronxin, à la technique Arnaud Caillet.